Nous sommes en compagnie de Leïla Slimani, la romancière qui a été chargée par Emmanuel Macron de le représenter en matière de francophonie. Votre point de vue sur Emmanuel Macron, est-ce que vous, si vous faites partie
de l'école des fans,
ben je ne sais pas si vous voudriez nous dresser un panégyrique du président.
Écoutez, oui, je suis admirative de plusieurs de ses qualités. Je ne suis pas dans un état d'adulation parce que c'est pas ma personnalité et puis parce que je pense que ça ne lui rend pas forcément ça. Moi, je pense qu'il faut toujours garder un regard critique sur tout. Il faut être capable de dire toujours ce qu'on pense. Donc oui, j'admire beaucoup de choses. Je trouve que ce qu'il a fait, personne ne peut dire le contraire. C'est assez incroyable. Il nous a surpris. Et moi, j'aime bien être
surprise. Votre diagnostic.
Mais après, moi, je suis.
Est-ce que Leïla Slimani est elle aussi victime du syndrome?
Non, moi, je suis une citoyenne, donc je juge
pas. Leïla Slimani une critique sur Emmanuel Macron, par exemple.
Ah, je sais pas, il faut que je trouve une critique comme ça, je sais pas.
Il a les lacets, paraît-il, d'une couleur différente de ses chaussures.
Ah, j'ai jamais regardé ses chaussures.
J'ai lu dans le Figaro un article très savant qui expliquait
que... Je ne lui cire pas ses chaussures, je ne lui en pas.
Une faute de goût, c'est ce que le Figaro avait trouvé, en tout cas, pour le critiquer.
Écoutez, je vous dis, je ne cire pas ses chaussures et je ne lui embrasse pas les pieds, donc je ne regarde pas ses lacets. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a, en matière de francophonie, puisque j'imagine que c'est plutôt à ce sujet que vous avez évoqué avec lui, la mission qu'il vous a confié, et qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans sa manière de se représenter la francophonie?
Mais justement, une certaine modernité, c'est-à-dire l'envie de plus regarder la francophonie, comme je disais tout à l'heure, avec cette vision, pour le coup, jupitérienne, arrogante, avec la France au centre. Il l'a dit d'ailleurs quand il était au Burkina, il a dit il n'y a pas un Français, le Français n'appartient pas à la France, il y a des Français et il faut valoriser justement les Français partout où ils sont, et le Français appartient à ceux qui le parlent. Et j'aime bien cette idée-là et j'aime bien sa volonté de bousculer un petit peu cette francophonie figée et un peu poussiéreuse pour valoriser le partage, l'ouverture, la diversité.
Mais justement, on a du mal parfois à savoir exactement où il est, mais c'est peut-être ça justement qui lui confère sa spécificité, c'est-à-dire qu'à la fois il incarne une certaine forme de classicisme à la française en matière d'études de goût littéraire, semble-t-il, et dans son discours il marque des signes d'ouverture. Vous pensez qu'il est des deux côtés, qu'il est...
Oui, je pense qu'en tout cas, il n'est pas fermé à l'ouverture, qu'il n'est pas fermé à la nouveauté. Je pense que c'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie qu'on lui amène des choses. Après, vous savez, je crois que l'exercice du pouvoir, c'est un exercice qui doit sans doute isoler, qui ne doit pas rendre... Enfin, c'est pas quand on est président, on ne passe pas son temps à lire des romans et à regarder des films, malheureusement.
On a connu des présidents qui...
Oui, mais bon, je pense que ça limite forcément, même si on a le goût des choses, ça limite en termes de temps. Donc, il est friand de ça, qu'on lui apporte des idées, qu'on lui donne envie aussi. Donc non, je pense que c'est quelqu'un qui est très ouvert à tout ça.
La conférence internationale pour la langue française qui a eu lieu donc mercredi et jeudi, autrement dit aujourd'hui, à Paris. De quoi a-t-on parlé dans cette conférence internationale?
Écoutez, c'était super. Ça s'appelle Mon idée pour le français. Et le but de cette conférence est de faire remonter les idées que les gens ont pour le français, c'est-à-dire arrêter de partir d'en haut en disant nous savons ce qu'il faut faire pour développer la langue française, pour la promouvoir, pour la francophonie, et c'est de dire c'est ceux qui parlent français aujourd'hui, c'est ceux qui la vivent aujourd'hui, c'est ceux qui font en français, qui ont les meilleures idées, parce que eux, ils sont sur le terrain et eux, ils voient les difficultés. Ils ont pu nous raconter comment on leur enseignait le français. Alors, c'était très drôle. Moi, hier, j'ai animé une table ronde. Franchement, j'étais assez émue parce que j'étais avec un jeune entrepreneur chinois qui habite à Paris, qui a créé un site internet pour développer le tourisme en France à destination de la communauté chinoise, qui parlait un français parfait et qui avait appris le français par amour pour Zidane et pour une fille. Il y avait un jeune slovène juriste qui parle 5 langues, qui est un grand amoureux de la France, il y avait une militante mauritanienne, une écrivaine algérienne, une urbaniste mexicaine, et chacun a pu raconter son histoire, comment il est arrivé au français, comment il a appris le français, et ce qui était merveilleux, c'est qu'il n'y avait pas du tout de langue de bois, que certains d'entre eux étaient très critiques, ils ont pu nous bousculer, nous pousser dans nos retranchements, en nous disant aussi en quoi la francophonie, par certains aspects, les gênait, en quoi ils la trouvaient justement trop rigide, trop idéologique, et c'était passionnant. Et donc voilà, pendant 2 jours, on va écouter les gens et essayer d'avancer ensemble pour modifier un petit peu les choses.
Il y a effectivement dans la francophonie toute une dimension qui semble un peu opaque, en tout cas pas évidente pour les néophytes. Il y a une organisation internationale de la francophonie et À quoi elle sert, par exemple?
Alors, l'Organisation internationale de la francophonie, elle compte 84 membres et elle a différentes agences. Elle sert surtout, bon, évidemment, à la promotion du français et elle a des programmes surtout éducatifs qui sont extrêmement importants puisqu'il y a l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Senghor d'Alexandrie qui sont des agences qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, qui permettent de créer des manuels, qui permettent d'enseigner aux professeurs et de former les maîtres en français. Il y a également TV5 Monde que vous connaissez, qui est donc là aussi une agence de la francophonie. Et puis il y a tous les deux ans, il y a un sommet qui réunit les chefs d'État des pays francophones et francophiles, parce qu'à l'intérieur de la francophonie, il n'y a pas que des pays francophones, il y a aussi des pays qui sont dits francophiles et qui se réunissent avec à chaque fois un objectif politique ou en tout cas culturel particulier qui se donne 2 ans pour parvenir à cet objectif.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie,
Moi, je dirais qu'est-ce qu'on doit attendre de l'OIF. Évidemment, l'éducation et la culture me paraissent être très très importants. Je pense qu'il ne faut pas se disperser. Je pense que vraiment aujourd'hui, il faut avoir des priorités et beaucoup investir sur ces priorités pour que on continue à apprendre le français dans des pays où pendant longtemps il y a eu un bilinguisme où la francophonie était bien installée et aujourd'hui elle recule. Donc évidemment l'éducation.
Par exemple où
En Afrique, par exemple, en Afrique, c'est vrai que il y a un recul de la langue française où on la parle, c'est-à-dire qu'on la parle encore, mais souvent on la parle moins bien. Et donc, il faut former des maîtres, il faut trouver le moyen d'accéder à des populations qui sont pas forcément dans les centres urbains, qui sont pas forcément dans les grandes villes. Donc, véritablement, l'éducation et la culture sont très importants. Et puis, il faut avoir de vrais objectifs en termes de droits humains, d'égalité hommes-femmes, et puis de défense de la démocratie, parce que évidemment. Évidemment, l'OIF elle est composée par toute une pluralité de pays qui ne sont pas tous au même niveau de démocratie. Et évidemment, je pense qu'il faut avoir un discours très fort là-dessus et très vigilant.
Le fait que le français recule en Afrique, Leyla Slimani, est-ce que ça n'est pas aussi le signe d'une part peut-être d'une baisse du rayonnement de la France, du rayonnement économique aussi, et puis la fin de choses probablement moins aimable, comme par exemple la France-Afrique.
Mais je ne sais pas si en fait la France-Afrique avait vraiment le souci de développer le français dans les régions profondes en Afrique. Vous savez, je pense qu'ils avaient vraiment d'autres soucis que celui-là. Donc pour moi, les deux sont assez séparés. Mais non, moi je crois qu'au contraire, les gens ont envie aujourd'hui d'apprendre le français pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'avant, on apprenait le français d'une certaine façon, on le subissait. Aujourd'hui, moi ce dont j'ai envie, c'est qu'on aille vers le français par envie, par choix. De la même manière qu'on va vers l'anglais parce qu'on a envie de regarder des films en anglais, des séries en anglais, de la même manière qu'on va apprendre demain le chinois en Afrique. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui développer cette idée de choix, de désir. Vous savez, le français, c'est vraiment, c'est un peu cucu de dire ça, c'est un peu cliché, mais en même temps, plus je me balade et plus je me rends compte que c'est vrai, le français, c'est une langue de désir. Souvent, j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, moi, j'apprends l'anglais parce que j'en ai besoin et j'apprends le français parce que j'en ai envie. Et cette notion de désir, cette notion d'envie, plutôt que de la regarder de haut en se disant non, mais alors là, ce cliché, la langue de l'amour, et ben finalement, faut peut-être l'utiliser. Peut-être que c'est une bonne chose, justement, de développer cette idée de désir et d'envie vis-à-vis de la langue française.
J'ai lu que vous souhaitiez, avec le président Macron, créer un dictionnaire de la francophonie. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, il y a deux projets qui vont aller ensemble. Il y a d'abord un dictionnaire qui est en train d'être mis en place par l'Académie de l'Outre-mer, qui est un dictionnaire qui recueille finalement toutes les expressions du français. Donc, on part d'un mot et on regarde comment ce mot français va être déployé dans différents pays. Alors, on part du Congo en passant par le Québec, comment cette expression est ensuite utilisée en Suisse, en Belgique. Donc, c'est extrêmement amusant. Parce qu'on voit que finalement la même signification va être
exemple,
dite de manière tout à fait différente. Oh là là, il est un peu tôt pour moi là, mon cerveau est un peu éteint. Si j'en ai un qui vient, je vous le dis dans 5 minutes.
Je vais vous poser une autre question en attendant Leyla Slimani. Il y a eu controverse sur l'opportunité de l'écriture inclusive qui aujourd'hui est pratiquée dans beaucoup de documents que je reçois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Y a deux choses qui me gênent. D'abord, je trouve ça dangereux de considérer que c'est la langue qui est sexiste. Parce que c'est pas la langue qui est sexiste, c'est la société qui est sexiste. La langue, elle est dans son usage, finalement, d'une certaine façon, l'émanation d'un rapport au monde. Mais ça n'est pas la langue elle-même qui est sexiste. Il y avait un rapport à la langue française comme si c'était la langue qui était sexiste. Ce sont les gens qui le sont. Ensuite, moi, je considère que c'est plus un code que véritablement une écriture. Parce qu'on peut pas la parler, cette écriture-là. On peut pas à l'oral, finalement, ça fonctionne pas. On peut pas écrire un poème en écriture inclusive. Donc, pour moi, une langue qu'on peut pas parler, qu'on peut pas oraliser.
Il y a plein de choses qu'on peut pas oraliser. Par exemple, quand on voit écrit MR, on sait que c'est monsieur.
Eh bah oui, mais vous dites point... monsieur.
Oui, mais il y a plein d'annotations qu'on peut.
Oui, mais ce principe du
ceux,
point,
par exemple,
ce principe
Emmanuel
du
Macron,
point, finalement, je vois pas. Bah voilà, donc on dit celles et ceux. Donc pourquoi mettre des points?
Bah parce que on sait
que
qu'on
la langue,
peut les traduire,
déjà...
les oraliser différemment à l'oral.
Bah oui, mais moi je vois pas comment. Je vois pas
vous
comment.
Vous êtes pas pour?
Moi non, je suis pas pour parce que je trouve que la langue française, elle a déjà toutes les ressources pour mettre de la féminité et que donc féminisons. Et je dirais même que finalement cette règle disant que le masculin prévaut sur le féminin au pluriel, et ben moi je trouve que ça peut être l'occasion aussi pour parler aux enfants, pour leur expliquer oui, ça c'est une règle de grammaire, mais vous savez c'est pas une règle dans la vie sociale. Et je trouve qu'au contraire on peut utiliser la langue pour parler peut-être de lutte contre la misogynie avec les enfants.
Est-ce que votre idée, finalement, c'est de rendre la francophonie moins institutionnelle, Leïla Slimani ?
Peut-être, oui. En tout cas, oui, on a besoin d'institutions, mais en tout cas, moi, ma vision, effectivement, oui, c'est de la dérigidifier, de la rendre, de la donner à tout le monde, de faire que tout le monde puisse y avoir accès, qu'elle puisse vivre partout, tout le temps, à égalité.
Alors, il y a quand même des choses institutionnelles et des polémiques institutionnelles dans le milieu culturel, puisque maintenant, puisque vous êtes doté d'une mission en matière de francophonie, Leïla Slimani, ça veut dire que vous êtes également plongé dans le monde culturel. Et depuis le lundi dernier, il y a une question qui est devenue une question publique autour du devenir, le devenir d'un théâtre, le théâtre du Tarmac. Il est à Paris et semble-t-il, ce théâtre devrait fermer. Puis il y a un certain nombre d'écrivains, Alain Mabankou, Boualem Sansal, Gaël Faye, il y a aussi l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui souhaitent que ce théâtre demeure ouvert. Votre point de vue là-dessus, c'est un point de vue qui est assez lié à la francophonie et on évoque la violence qu'il y aurait à fermer ce théâtre.
En fait, c'est une question qui est très complexe, un dossier vraiment très compliqué dont je ne vais pas pouvoir expliquer tous les tenants et les aboutissants. Mais effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont signé la pétition, mais il y en a certains qui sont revenus sur leur signature une fois qu'ils ont regardé véritablement ce dont il s'agissait. Le tarmac va fermer, mais il va y avoir une continuité immédiate, c'est-à-dire que tout de suite sur le site, ça va être repris par le Théâtre Ouvert, par Caroline Marsaillac, et le ministère de la Culture va maintenir son budget avec une obligation de maintenir la question de la francophonie au cœur du Théâtre Ouvert. Donc non seulement il va y avoir une continuité en termes de production artistique, mais en plus la question de la francophonie non seulement n'est pas abandonnée, mais on va lui demander de faire plus. Parce que si aujourd'hui le Tarmac se termine, c'est aussi parce que il y a eu un rapport d'inspection et que bon, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais si les gens avaient toutes les informations, ils se rendraient compte que ça n'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc parfois je lis des tribunes, des papiers et tout, et je suis un peu triste de me rendre compte que parfois on écrit des choses sans véritablement savoir ce qu'il y a derrière.
Donc pas véritablement
une Il n'y a pas de raison de s'inquiéter
polémique.
En tout cas, voilà, je rassure ceux qui s'inquiètent, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour le théâtre francophone, parce que demain il y aura des pièces francophones au théâtre ouvert et ce sera sans doute magnifique.
Autre polémique sur laquelle j'aurais aimé avoir votre point de vue, Leïla Slimani, celle qui naît suite aux Victoires de la musique où un rappeur, Orel San, a obtenu une distinction et certaines de ces chansons ont été jugées tout à fait choquantes, notamment celle-ci qui s'intitule Saint-Valentin.
Je laisse la lumière allumée et je garde mes chaussettes. Je vais l'allumer jusqu'à ce qu'elle soit couchée et qu'elle voit des clochettes. J'adore les petites coquines avec des couettes et des fossettes. Je te rends misérable, tes copines vont t'appeler Cosette. J'ai des positions inconnues pour que tu goûtes au vrai bonheur, parce que je me frange sur Canal Plus et j'ai jamais eu le décodeur. Et le lendemain matin, elles hors demande se mettent à trépigner. Ou tu vas te faire Marie Trintignée, je te le dis gentiment.
Est-ce que pour vous, Leïla Slimani, c'est ça aussi la francophonie? Est-ce que les paroles sexistes de cette chanson vous paraissent choquantes, ou bien est-ce que on a affaire à de l'art et il est compliqué dans ces conditions d'introduire de la morale dans ce type de thème?
Moi, je connais pas ce chanteur. Enfin, j'écoute pas beaucoup de musique, pardon. Mais je connais pas cette chanson, mais la question qui se pose, c'est de quel point de vue il parle, parce qu'il y a des œuvres évidemment qui ont été des œuvres où le personnage est un monstre, où le personnage est un être violent, malveillant, malfaisant. Mais quand c'est très bien écrit ou très bien raconté, on sait où se situe l'auteur. On sait très bien que simplement on explore l'âme humaine, on explore une noirceur.
Donc c'est ce que vous avez fait comme romancière.
Voilà, on peut écrire, je veux dire, on peut écrire sur un homme qui bat sa femme, on peut écrire sur un serial killer et pour autant ne pas en faire l'apologie. Donc là, la vraie question, c'est est-ce qu'à la fin de la chanson, on sait, nous, en tant qu'auditeurs, est-ce qu'on comprend immédiatement d'où il parle. S'il y a trop de confusion, peut-être que là, il y a quand même un problème. Je pense qu'une vraie œuvre d'art, elle doit être capable immédiatement d'avoir une évidence par rapport au point de vue. Donc ça, je ne sais pas parce que je ne connais pas la chanson.
Mais alors, je vais être un peu embêté parce que je souhaitais vous parler du rap français si vous dites que
vous écoutez peu de musique. J'écoute pas de musique.
C'est vrai ?
Bah ouais, je ne sais pas. Je sais que c'est très bizarre.
Pas de chanson non plus ?
Bah non. Très très peu.
Bon, écoutez, j'en reste interdit,
voilà,
mais le rap français, et en tout cas, ça au moins j'imagine que vous le savez, et pas que français d'ailleurs, francophone, est l'une des formes probablement d'expression les plus vivantes aujourd'hui, et évidemment, la langue qui est utilisée est la moins orthodoxe qui soit. Votre point de vue, Léla Slimani, sur la manière dont cette sphère-là vit, et comment elle rentre dans la francophonie?
Moi, d'abord sur la langue, je pense qu'il faut pas être dans un rapport, comme je le disais tout à l'heure, rigide à la langue. Au contraire, la musique, les musiques urbaines, le rap, il faut qu'il soit là pour bousculer la langue, pour nous étonner, pour nous surprendre. Moi, je trouve qu'il y a une façon absolument magnifique de faire de la poésie. Moi, j'ai fait par exemple la rentrée littéraire l'année de Chansons douces avec Gaëlle Faye, dont j'ai pu d'ailleurs écouter les chansons. C'est extraordinaire la façon dont il utilise la langue française dans sa musique, c'est absolument magnifique, c'est d'une poésie bouleversante. Donc moi, ça me touche énormément. Je pense que ce sont des ambassadeurs très très importants de la francophonie.
Et alors sur l'autre versant, parce que vous êtes exprimé dans le débat contemporain sur la question donc des femmes, de l'égalité entre les hommes et les femmes, dans la suite évidemment des hashtags, des mots dièses, comme ça qu'on dit en français.
Vous pouvez dire hashtag, moi je trouve qu'il ne faut pas être non plus complètement coincé. Disons hashtag, ça va, c'est pas grave.
Donc, dans le cadre du mot dièse ou du hashtag balance ton porc, vous avez pris la parole et vous avez fait une tribune en réaction à une autre tribune. Alors, la tribune à laquelle vous réagissiez était celle de Catherine Millet et Catherine Deneuve, notamment. Elle s'appelait une tribune en faveur de la liberté d'importuner et vous avez utilisé un jeu de mots, un porc. Tunais, point d'interrogation, s'intitulait votre tribune, et vous disiez par exemple « Je revendique ma liberté à ce qu'on ne commente pas mon attitude, mes vêtements, ma démarche. Je revendique mon droit à la tranquillité, à la solitude, le droit de m'avancer sans avoir peur. » Qu'est-ce que vous avez cherché à dire dans cette tribune pour ceux qui ne l'ont pas lu, Léla Slimani ?
Je cherchais d'une certaine manière à recentrer le débat sur ce qui me paraissait véritablement important, c'est-à-dire, oui, et ces femmes, elles ont envie de défendre une certaine liberté dans les rapports sexuels entre les hommes et les femmes. Mais d'abord, moi, je voulais dire que tous les rapports entre les hommes et les femmes ne sont pas d'ordre sexuel. D'abord, nous prenons le métro ensemble, nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble, et que dans ces rapports-là, qui ne sont pas forcément donc tous d'ordre de la séduction ou d'ordre sexuel, nous voulons simplement, nous les femmes, le respect, le droit à ne pas se faire importuner, à ne pas avoir un homme qui se frotte contre nous dans le métro, à avoir le même salaire, à pouvoir s'asseoir sur un banc et rester seul sans que personne ne vienne commenter votre attitude, vous parler comme si vous étiez simplement un corps. Et puis je pense qu'il faut regarder les choses avec une échelle un petit peu plus grande et se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui dans le monde être une femme dans beaucoup d'espaces publics, et que pour beaucoup de femmes aujourd'hui il faut se battre pour le droit de ne pas être importunée, que prendre le bus, prendre le métro au Caire ou à Kinshasa ou dans je ne sais pas combien
de Casablanca
à Casablanca, c'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar. Donc ces femmes-là, aller leur parler de la galanterie, de la liberté d'importuner, je pense que c'est pas leur priorité. Donc aujourd'hui il faut peut-être remettre un certain nombre de priorités et se battre simplement pour que les femmes aient le droit d'être tranquilles dans les espaces publics.
dans l'enquête justement que vous avez faite sur la manière dont la sexualité pouvait se vivre dans certains pays arabes, vos conclusions, est-ce que les choses sont en train de changer là-bas aussi ?
En fait, ce que je raconte dans ce livre, c'est que les choses ont changé. Les gens ont une sexualité avant le mariage, les gens vivent leur homosexualité. Donc les choses ont changé, simplement, ça n'est toujours pas légal. Donc les gens le vivent, mais le vivent caché, le vivent derrière les portes closes. Et évidemment, à partir de là, il y a des très grandes différences entre classes sociales. Parce que quand vous avez une voiture, une grande maison, la possibilité de voyager, le fait qu'il y ait des lois qui vous interdisent de faire l'amour ou d'être homosexuel, vous le vivez beaucoup moins que quand vous habitez dans un quartier populaire avec vos parents, avec votre famille, où vous n'avez pas du tout la possibilité d'avoir une intimité, où vous êtes sous le regard constant de votre voisinage qui peut vous dénoncer si vous faites ci ou si vous faites ça. Donc c'est extrêmement dur, ça change en termes de mœurs, mais ça ne change pas sur le plan législatif.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, puisque, par exemple...
Oui, il y a une prise de conscience, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un ministre que les médias n'interviewent pas là-dessus, en leur disant, mais quand est-ce que ça change ? Quand est-ce qu'on va bouger là-dessus ? Et puis, malheureusement...
Il y a les ministres, il y a la société aussi qui, elle...
Qui est conservatrice, hein, qui est majoritairement conservatrice. Mais je pense qu'il faut continuer à en parler, à en parler. Il faut libérer la parole là-dessus. Et puis, moi, j'ai l'espoir que les choses finiront par changer. Mais on est évidemment une société conservatrice. On a un gouvernement qui est un gouvernement islamiste. Donc qui est plutôt lui aussi très conservateur. Et l'idée du gouvernement, enfin ce que défend aujourd'hui notre ministre...
Ah, tu dis
que
c'est aussi la même situation.
Oui, mais on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire que les Tunisiens. Les Tunisiens, par exemple, c'est un pays où l'avortement est légal, la Tunisie. Au Maroc, il y a 600 avortements clandestins par jour.
Une femme qui habite seule, y compris à Tunis, c'est pas forcément évident.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même très différent. Je vous dis, quand vous avez 600 avortements clandestins par jour dans un pays comme le Maroc, en Tunisie, ils ont déjà fait un pas quand même idéologique sur le rapport aux femmes qui n'est pas du tout le même qu'au Maroc. Mais j'ai bon espoir, à part que, voilà, je vous disais, le ministre des Droits de l'Homme au Maroc qui vient de donner une interview en disant « Non, non, mais faites ce que vous voulez chez vous, soyez homosexuels, ayez des relations, etc. Mais si on vous attrape dehors, voilà, vous irez en prison. »
Et en France, donc, ce hashtag et la manière dont la société le reçoit, l'a reçu, est-ce que vous avez des réserves ? Est-ce que vous trouvez que, finalement, ce mouvement et un mouvement qu'il faut soutenir, Leïla Slimani?
Ah oui, moi je pense que c'est un mouvement qu'il faut soutenir, bien sûr, parce qu'il faut libérer, il faut absolument libérer la parole. Je pense qu'une des grandes forces du système patriarcal, ça a été de pousser les femmes au silence, c'est-à-dire d'utiliser la honte, qui est un outil de contrôle social extraordinaire. Moi je l'ai vu encore plus justement dans des pays comme le Maroc, avec ce qu'on appelle la chouma, cette honte qui vous empêche de parler, qui vous empêche de dénoncer, qui vous empêche d'aller porter plainte. Donc à partir du moment où on va briser le silence, on va se rendre compte que effectivement la honte, elle doit peut-être changer de camp. Et moi je pense que c'est libérateur pour les femmes, mais c'est libérateur aussi pour les hommes, parce que les hommes aussi se rendent compte de ce qui se passe, se rendent compte de ce que vivent leurs femmes, leurs sœurs, leurs amis, leurs collègues de travail, et ils peuvent plus dire bah moi je savais pas, je me rendais pas vraiment compte. Et que ça va sans doute aussi changer notre rapport à l'éducation, la façon dont on va transmettre ça aussi à nos enfants. On va peut-être être plus vigilant avec nos garçons comme avec nos filles. Donc évidemment, moi, je soutiens absolument ce mouvement de libération, comme tous les mouvements de libération, d'ailleurs.
On entend également beaucoup de commentaires, de nouvelles notions qui apparaissent. On a parlé de l'écriture inclusive. Vous avez fait part de vos réserves. On entend beaucoup parler de zone grise, c'est-à-dire cette zone qui relèverait du consentement, où le consentement ne serait pas absolu, nécessairement acquis dans certaines relations sexuelles. Et on se rend compte finalement que au travers de cette notion, eh bien, les choses ne sont pas nécessairement aussi simples pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont des actes que l'on fait mais qu'on n'a pas envie de faire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, c'est passionnant de se pencher sur cette question, c'est extrêmement complexe. Il y avait une nouvelle dans le New Yorker qui s'appelle Cat Person, l'homme au chat, que je vous conseille à tous de lire, qui est vraiment extraordinaire là-dessus, sur cette question de la zone grise. Mais moi, je pense que tant qu'on vivra dans un système misogyne, machiste, patriarcal, tant que les femmes vivront avec cette idée que leur corps est une espèce de monnaie d'échange, qu'elles doivent d'une certaine façon accepter une domination masculine en termes de sexualité, et ben cette zone grise, elle sera dangereuse. Plus on se battra pour l'égalité. Plus on vivra dans un monde où les femmes et les hommes vivront ensemble de manière apaisée, sans violence, et plus cette question de la zone grise, elle pourrait être quelque chose de joyeux, elle pourrait être de l'ordre de la séduction, de l'ordre du jeu, et elle ne sera plus un espace de mise en danger de la femme. Donc vraiment...
Ou de contrainte intériorisée.
Ou de contrainte intériorisée, en fait, exactement, parce que c'est ça. Il y a cette contrainte intériorisée. C'est pour ça que cette nouvelle est intéressante, parce qu'à un moment, cette femme se retrouve avec un homme. Au moment où elle est dans le lit avec lui, elle n'a plus envie. Et en même temps, elle se dit, oh là là, ça va être tellement compliqué de lui expliquer maintenant que j'ai plus envie. Et si ça se trouve, il va devenir violent. Et si ça se trouve, le fait de lui dire que j'ai plus envie, il va faire que je vais me retrouver dans une situation, il va m'imposer. Et donc, elle finit par accepter d'avoir cette relation sexuelle qu'elle n'a pas envie d'avoir. Et je crois que c'est vraiment ça. On intériorise quelque chose. Et puis, il y a la peur aussi. La peur de dire non et de susciter une réaction violente de la part de l'homme. Donc, plus on se battra contre ça, et moins cette zone grise sera dangereuse.